Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec l'auteur bosnien Semezdin Mehmedinovic à l'occasion de la parution du recueil Sarajevo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, traduit du bosnien par Chloé Billon. Chloé qui nous fait la joie d'interpréter aussi les propos de Semezdin Mehmedinovic et que nous interrogerons tout à l'heure sur sa traduction de Sarajevo Blues. Semezdin Mehmedinovic, bonjour.
Zdravo, Mathias.
Bonjour Mathias. Merci pour ton invitation.
J'avais eu l'honneur de vous recevoir au moment de la sortie de Le matin où j'aurais dû mourir, déjà aux éditions du Bruit du Monde. Et aujourd'hui, nous revenons en arrière dans votre œuvre jusqu'aux années 90, année du siège de Sarajevo et de la première parution de Sarajevo Blues. Essayons de nous placer, si vous le voulez bien, Semezdin Mehmedinovic, juste avant le début du siège de Sarajevo en 92. Qui êtes-vous à ce moment-là? Qui est Semezdin Mehmedinovic au début de la guerre en Bosnie?
Quand
nous parlons des années 90 et puis de l'année 1992 en particulier, l'année du début du siège, à l'époque, je suis un jeune poète bosnien qui est également le rédacteur en chef d'une revue culturelle. Cette revue est inspirée par Manuel, elle s'appelle Le fantôme de la liberté. Je fais partie à l'époque d'une scène culturelle très dynamique à Sarajevo. Sarajevo avait vécu une véritable explosion culturelle. C'était une société qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale et qui était à son apogée, qui était devenue une société mature. À cette époque, Sarajevo avait sa propre maison d'édition, ses propres maisons d'édition, des grandes maisons. L'une d'entre elles avait une production annuelle de 2000 titres. Nous parlons donc d'une ville où la culture jouait un grand rôle, avait une grande importance. Et je me sentais comme partie prenante de cette scène culturelle, une scène culturelle qui, malheureusement, serait bientôt livrée à elle-même sans la moindre infrastructure. Le début de la guerre, c'était ce moment où nous avons dû recommencer, reconstruire les institutions culturelles à zéro.
Justement, Sarajevo Blues, ce livre en fragments, ce livre de poèmes mêlé de courts essais sur la situation politique, l'histoire du siège, les différents personnages qui vous rendent visite à Sarajevo, la douleur de la vie pendant ces trois années, c'est un effondrement permanent de tout ce qui compose la société, la culture, la littérature, les institutions publiques, politiques, la vie quotidienne, la présence de la mort. Tout ça, c'est Sarajevo Blues. À quel moment, Semezdin Mehmedinovic, vous rendez-vous compte que la guerre est là? Est-ce que pour vous, il y a un moment qui marque réellement le moment où tout bascule dans la violence?
Oui, pour mentionner une date concrète, c'est le 5 avril 1992, quand, devant l'Assemblée de la République de Bosnie, il y a eu de grandes manifestations contre la guerre. Je me suis rendu à ces manifestations et à cette époque, je portais une veste, c'était une journée assez froide, je portais une veste à carreaux rouges et noirs. Et pendant ces manifestations, il y a eu un incident au cours duquel un sniper, depuis le toit de l'hôtel Holiday Inn, a tiré sur les manifestants. Et je me rappelle de ce moment comme d'une sorte de décision fondamentale, durable, plus jamais je ne porterai de vêtements en couleur vive. Parce que j'étais probablement l'un des manifestants les plus visibles à ce moment-là. Et sur le moment, j'étais pleinement conscient du fait que j'étais une cible ambulante. Je me rappelle de la manière dont je suis lentement sortie du cortège pour me cacher derrière un immeuble, hors de portée des snipers. Quoi qu'il en soit, ma première impression du début de la guerre, c'est ce moment-là.
Mehmedinovic, il faut revenir un peu sur l'archéologie, la fabrication de Sarajevo Blues, dont la première version a été publiée au milieu des années 90, tout d'abord en Bosnie, à Zagreb, et puis ensuite en traduction aux États-Unis. Est-ce que le livre a changé? C'est-à-dire que ce que nous lisons aujourd'hui, qui est publié donc au Bruit du Monde dans la traduction de Chloé Billon, est exactement ce que l'on pouvait lire au milieu des années 90, ou est-ce que vous avez modifié les textes? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous changeriez quelque chose à Sarajevo Blues?
La plupart de ce livre, je l'ai écrit au cours des premiers mois du siège. Et ce livre a été publié en janvier 1993 à Sarajevo, chez cette grande maison d'édition que j'ai mentionnée, Svetlost, ce qui signifie la lumière. Et à cette époque, il me semblait que c'était la version finale de l'ouvrage. Étant donné, cependant, que le siège a duré 3 ans et demi, j'ai continué à écrire ces textes, ces fragments, et ensuite, j'ai ajouté certains de ces textes écrits ultérieurement dans la nouvelle édition qui est sortie en 1995. Mais il m'est arrivé quelque chose d'étrange, de singulier. En 1995, à Zagreb, le livre est sorti chez la petite maison d'édition Durieux, et la forme définitive de Sarajevo Blues que vous avez sous les yeux, le 17 septembre 1995, elle l'a apporté à Zagreb pour la faire publier. Cependant, l'éditeur de cette maison d'édition de l'époque avait déjà un dossier avec certains de mes textes que j'avais écrits 2 ans auparavant. Et il avait déjà préparé ces textes pour la publication. Et en comparant les deux manuscrits qu'il avait, donc celui qu'il avait et celui que lui avait apporté mon épouse, il a décidé de publier le premier parce qu'il y avait plus de textes à l'intérieur. Moi, j'ai été furieux. Mais je n'ai pas pu y faire grand-chose. Et ensuite, ce qui apparaît sous la forme des traductions, les traductions, donc c'est ce que vous avez sous les yeux, et c'est le texte que je voulais publier. Et d'une certaine manière, ça exprime bien, cette histoire reflète le chaos dans lequel nous vivions à l'époque. C'était la dernière année du siège, la fin de la guerre. Ensuite, j'ai corrigé et finalement, en fait, le livre est sorti en traduction dans différentes langues, dans la version que je voulais, mais j'ai longtemps repoussé le moment de corriger la version originale. Et je l'ai fait enfin il y a 2 ans, chez la maison d'édition Fractura, à Zagreb, et donc c'est chez eux que j'ai publié cette version finale de Sarajevo Blues, en y ajoutant un autre texte qui n'est pas traduit. Mon journal de la dernière année de la guerre et surtout mon journal du départ de Sarajevo pour les États-Unis.
C'est Mezim Mladenovic, parmi tous les fragments qui composent Sarajevo Blues, un peu comme les fragments d'un obus de mortier qui éclate dans une rue de Sarajevo, il y a un moment où une des plaques de la rue Maršala Tita tombe d'un mur et dévoile le nom antérieur de cette rue pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était celui d'Ante Pavelic, le dictateur, le Hitler, entre guillemets, croate, qui dominait à ce moment-là la Bosnie pendant la guerre, un personnage absolument terrifiant, d'une dictature atroce et génocidaire. Est-ce que justement c'est l'histoire, finalement, la guerre elle-même qui nous montre ce qui s'est produit avant? C'est pas une métaphore, parce que c'est la réalité. Cette plaque apparaît et elle est dévoilée par la violence des obus qui proviennent de ceux qui cherchent finalement à renvoyer la Bosnie vers les années 40, ce qu'on appelle les Tchétniks, comme c'était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce raccourci-là est absolument magique, c'est Mezdin
Mehmedinovic.
Et de fait, dans les guerres balkaniques, voilà, il y a des obus qui tombent qui datent aussi de guerres précédentes. Et ce détail était extrêmement important pour décrire ce que sont les Balkans. Que s'est-il passé? Un obus est tombé sur une façade d'un bâtiment de la rue principale de Sarajevo, qui à l'époque s'appelle la rue du Maréchal Tito. Et quand la plaque avec le nom de Tito est tombée, cela a révélé donc cette plaque avec le nom du docteur Ante Pavelic. C'était le nom de la rue pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le NDH, donc l'État indépendant de Croatie, qui était un État collaborationniste, dominait Sarajevo. Sarajevo est une petite ville, vous le savez, Mathias. Sarajevo est une ville qui a été conçue pour les piétons, et il est facile de s'y retrouver parce que le long de toute la ville, qui fait environ 12 km, nous avons une rue qui traverse toute la ville sur sa longueur. Et il y a juste un tournant assez abrupt autour de l'Assemblée, l'ancienne bibliothèque, et cette rue se poursuit. Du côté nord, à cette époque, la rue s'appelait Ante Pavelić. Mais le côté sud de cette même rue, qui longeait la rivière, eh bien, après ce tournant abrupt, s'appelait la rue Adolf Hitler. Et les Balkans ont cette caractéristique que chaque époque s'efforce d'effacer la précédente. Dans les Balkans, ou à Sarajevo, cela ne fonctionne pas comme un palimpseste où toutes les couches de l'histoire restent visibles. Ici, il s'agit d'un besoin d'oubli, d'effacement. Et pour moi, c'était une véritable surprise quand j'ai découvert que cette rue s'était un jour appelée Ante Pavelić.
Zemezdin Mladenović, le siège de Sarajevo brise tout. D'abord, la vie quotidienne, la politique, le rapport au passé, le rapport évidemment à ce qui vous entoure, et aussi la littérature. On a l'impression que ces fragments sont courts, comme si le papier, l'énergie pour écrire, les possibilités de publication se réduisaient avec le siège.
Oui, ici, dans le livre, je prends la position d'un observateur qui s'efforce d'être objectif. La réalité est détruite, la ville est changée en ruine, et à cet instant, il me semblait que la seule manière de décrire cette réalité, c'était des fragments, parce que la réalité elle-même était fragmentée. Et d'autre part, il n'est pas possible de parler de manière exacte du siège en utilisant une seule forme, uniquement l'essai, la nouvelle, la poésie, par exemple. Il faut avoir un mélange de tous ces genres. Et oui, moi, d'une certaine manière, j'ai toujours rêvé de produire un livre qui parlerait d'un problème en employant différentes formes. Des interviews, aux chansons, feuilletons, nouvelles, micro-essais, et même dessins. Et dans une version idéale, ce livre aurait également une sorte de bande-son audio. Le siège, en réalité, m'a ouvert cette possibilité de faire un livre qui inclurait différentes formes dans le même ouvrage, sous la même couverture, et de manière à ce que cela ne soit pas anti-naturel, du moins, en tout cas pour moi, je trouve ça assez naturel.
On entend, Zemezdin Mladenović, quand même, la bande-son de Sarajevo pendant le siège, dans Sarajevo Blues. On entend justement le grand silence qui sépare, et le très long silence qui sépare les explosions, ou les tirs, ou les cris. On entend les quelques oiseaux. Donc le son aussi est très important, puisque, comme vous le notez dans un très très beau poème intitulé tout simplement « La guerre », c'est la guerre et il ne se passe rien.
Oui,
le son est l'essence même du siège de Sarajevo. Sarajevo est une petite ville assiégée, donc un siège très intense. Il y a les tanks, les snipers, les bombardements. Et la ville est si petite que nous sommes tous dans le champ de vision des snipers. Et quand nous parlons de ces obus, ce sont des obus de production russe qui étaient employés par l'armée serbe. Ces obus étaient très violents, particulièrement pervers, parce qu'ils produisent un très grand nombre d'éclats. Et des années après, j'ai rencontré un homme qui vivait aux États-Unis et qui réfléchissait à comment régler le problème de ces obus, que faire. Et finalement, tout ce qu'il avait trouvé, c'était utiliser, mettre à profit le temps dans le son entre le tir de l'obus et l'explosion. Le temps qui reste après le tir, c'est le temps que tu as pour pouvoir te protéger, mais sinon il est impossible d'échapper à un obus. Et il a cessé de travailler sur les obus après le siège de Sarajevo, parce qu'à Sarajevo, l'écart sonore entre le tir et l'explosion était si court qu'il n'y avait pas de moyen de se protéger, de se cacher. Et ce son du tir des obus est toujours une sorte d'invocation de votre propre mort quand vous l'entendez.
Chloé Billon, je m'adresse à vous maintenant. Vous êtes la traductrice donc de Sarajevo Blues. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette expérience? Qu'est-ce que c'est que de se replonger pour vous dans le siège de Sarajevo et d'essayer de mettre ce siège en français? Bien sûr, c'est quelque chose de très connu en France. D'ailleurs, le texte a plusieurs personnages français. Bernard-Henri Lévy, bien sûr. Jean Baudrillard, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous, comme traductrice, quelle a été cette expérience?
Pour moi, c'était une expérience très touchante. Et je veux dire qu'à un moment, quand je posais une question de traduction sur le sens particulier, où j'ai dû poser notamment pas mal de questions à Semezdine au sujet de la géographie de la ville, parce que comme il expliquait, la géographie change assez rapidement dans les Balkans, ou plutôt les noms des lieux changent quand les régimes changent. Mais sauf qu'en général, la mémoire populaire est tenace, malgré les changements de régime. Et souvent, on continue, les gens continuent à appeler certaines rues, certains endroits, lieux de rassemblement, par le nom qui était le leur les 50 années précédentes, et pas par le nouveau nom officiel imposé par le nouvel État. Et cette géographie-là, moi je ne la maîtrisais pas tout à fait pour Sarajevo, parce que je n'y ai pas vécu. J'ai vécu à Belgrade, à Zagreb, mais pas à Sarajevo. Donc je posais des questions, notamment à ce sujet-là, à Semezdine, ou au sujet d'événements en particulier, d'allusions, parce que dans le texte il y a des allusions, et à l'époque c'était évident quand ils étaient dedans. Bon, moi, pendant le siège de Sarajevo, déjà j'ai eu la chance de ne pas le vivre, et de toute façon j'étais trop petite, je n'aurais pas pu m'en souvenir. Mais à un moment où je posais des questions à Semezdine, il m'a dit « Je suis désolée, j'espère que ce n'est pas trop dur pour toi, c'est un livre dur qui parle de la guerre. » Et je lui ai dit « Non, en fait, paradoxalement, ce n'est pas dur pour moi. » Il y a eu des fois où j'ai traduit des livres où il y avait des passages de violence ou une certaine noirceur. Et effectivement, c'était dur. À la fin de la journée, je me sentais déprimée, je me demandais pourquoi, et je me rendais compte que j'avais traduit quelque chose de violent et de noir toute la journée, qui est passé par votre corps, et ensuite vous avez dû le reproduire dans votre langue maternelle. C'est pas la même impression que quand on ne fait que lire, entre guillemets. Et mais ça n'a pas été le cas pour Sarajevo Blues, parce que c'est un texte qui est empreint d'une telle lumière, paradoxalement, et d'une telle humanité, même en décrivant l'horreur, même finalement peut-être d'une certaine forme de paix. C'est vraiment pour moi le paradoxe de l'expérience, en tout cas que moi j'ai eu de traduction de ce livre, c'est que tout en parlant de la guerre, il dégage une telle bonté, une telle lumière qu'il vous fait ressentir de la paix.
Semezdine Mehmedinović, puisqu'on parle justement de cet aspect lumineux de Sarajevo Blues, il faut dire quelque chose des images et notamment des photographes. Parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez oui, il faudrait peut-être mettre des dessins, du son. Alors le son, il y est, mais aussi les images. Puisque vous décrivez plusieurs façons de photographier le siège. Et notamment une qui justement peut-être apporte de la paix et de la beauté au milieu de la guerre. Semezdine Mehmedinović.
Je suis un peu obsédée par ce concept de l'image de la photo et ma manière d'écrire est tout en image d'ailleurs. Je me place dans la position d'observateur et j'essayais de décrire objectivement. Et j'étais très conscient que si je représentais ça par le biais d'images, je réussirais à éviter le sentimentalisme, le pathos. Et je ne montre jamais les sentiments comme mon sentiment personnel, mais j'essaye de faire en sorte que ce sentiment parle par le biais d'images dans la langue. J'étais pleinement conscient, dès le début, quand j'ai commencé à écrire, que c'était la seule manière de parler de ce siège. Parce que sans cette distance que nous permet la langue, eh bien, on peut facilement basculer dans la propagande, le politique, l'idéologique, qui est problématique. Et à aucun moment, je ne me suis présentée comme une victime. Je m'efforçais même, au contraire, de ne pas traiter les gens exposés à une telle tragédie comme des victimes, mais comme des personnes vivantes, intéressantes, chacun avec leur vie. Et la vie sous le siège avait différents aspects. Il y avait des aspects tragiques, bien entendu, mais il y avait aussi des instants de joie incomparables. Les liens qui se nouaient entre les gens, la chaleur humaine, des liens, une chaleur que je n'avais jamais vécue avant, que je n'ai plus jamais revécue après. Et mon expérience avec les lecteurs de mes textes a été unique pendant la guerre. Il y avait des gens qui ne lisaient ni de la poésie, ni de la littérature, qui finalement ont lu ces textes tout simplement parce qu'ils avaient le besoin d'essayer de trouver une réponse, de comprendre ce qui leur arrivait, quelle était leur réalité. Un besoin très fort de trouver des réponses. Et je me rappelle de cette époque comme extrêmement difficile, extrêmement tragique, mais également, malgré tout, en dépit de tout ce tragique de la situation, il y avait aussi des moments d'une beauté incomparable. Et à cette époque, je me suis sentie plus libre que jamais avant ni après, ce qui de fait est un paradoxe.
Il y a deux textes dans Sarajevo Blues à propos des photographes de guerre, qui sont un peu de deux catégories, ceux qui photographient la guerre en faisant des photographies de l'événement, des victimes, et puis un, cher à vos yeux, qui photographie tout autre chose, c'est Mesdine Mehmedinovic. Et là, on voit vraiment la différence d'approche, non, qui fabrique aussi Sarajevo Blues. On va pas s'intéresser directement à la douleur, elle est là, elle est partout, mais on va aussi raconter autre chose.
Les grands organes de presse, les organes médiatiques envoyaient leurs photographes et ils avaient un besoin d'informations fraîches. Et les informations pendant la guerre, c'est la mort, c'est les informations. Et je me souviens d'une époque au carrefour des rues où il y avait des snipers actifs et donc où les gens mouraient sous les balles des snipers au carrefour, on pouvait voir des groupes de photographes qui attendaient que quelqu'un tombe sous les balles d'un sniper pour pouvoir prendre leur photo. Et en ce sens, cette forme de photographie de presse, de photographie de guerre, pose des problèmes éthiques conséquents. D'un autre côté, ce que faisaient les photographes locaux, donc qui avaient une forme de sensibilité vis-à-vis de la collectivité à laquelle ils appartenaient, eh bien, ils photographiaient des choses tout à fait différentes. Je me souviens notamment du photographe Emir Hadjic qui photographiait des rues vides, des rues désertes, sans le moindre événement. Et dans ces photographies, eh bien, on a une image bien plus fidèle de la guerre que celle que nous donne un corps démembré. La plupart de la guerre, c'était un état dans lequel les rues étaient désertes parce que les gens s'étaient réfugiés à l'intérieur. Je me souviens de longues journées d'hiver où, dans la rue Tito, complètement vide, la neige tombait, je marchais dans cette rue et moi j'étais le premier à laisser des traces dans la neige. Dans la rue principale, qui auparavant était très vivante. Et là, ça voulait dire que toute la journée, personne n'avait emprunté cette rue. Autre exemple, Milomir Kovacevic, le photographe qui a marqué ce siège, qui vit à Paris. J'aime bien certaines de ses séries de photographies de guerre, et précisément pour ces raisons, parce que ces photographies étaient à la recherche de ce qui était vivant. Ils n'étaient pas à la recherche de la mort. Il y a une magnifique série de photographies dans laquelle il a photographié des gens qui se réjouissent. Et c'est une joie qui est hypnotique, magnétique. Quand nous pensons au lieu de tragédie, nous pensons que la vie y est suspendue. Mais ce n'est pas le cas. La vie continue. Et au contraire, même, d'une certaine manière, la vie est encore plus intense que pendant les époques de paix plus conformistes où chacun est pris dans sa routine, dans ses rituels imposés par la société. Donc l'intensité de la vie est incomparable pendant la guerre. C'est pourquoi je dis parfois que je ressens même de la nostalgie envers cette époque, donc pas pour la guerre bien entendu, mais j'ai la nostalgie de cette liberté que nous avions.
C'est Mesdine Mehmedinovic. Dans Sarajevo Blues, vous citez un article de Jean Baudrillard intitulé « Pas de pitié pour Sarajevo », publié en 93 dans le journal Libération, qui dit: seul l'oubli de l'extermination est pire que l'extermination. On est en 93 et pourtant, il nous parle de ce qui va se produire par la suite déjà, non? De cette extermination des Bosniaques qui était en cours. Et aujourd'hui, Comment est-ce qu'on voit Sarajevo Blues? Comment est-ce que la jeune génération de Sarajevo repense le siège? Est-ce que la littérature a une place dans ce souvenir tel qu'il s'organise aujourd'hui?
Les temps ont changé. Le monde a considérablement changé également. Il y a à Sarajevo des lecteurs et des lecteurs de Sarajevo Blues. Et dans toute l'ex-Yougoslavie, il a une sorte de projection politique qui fait en sorte d'adoucir l'histoire sur la guerre, de ne pas en parler, de ne pas écrire trop sur la guerre afin de pouvoir revenir à la paix entre les anciens ennemis. Et cela a des conséquences. Mais d'un autre côté, la littérature dominante reste celle qui parle de la guerre. Que cela soit des livres écrits à Zagreb, Sarajevo ou Belgrade, on parle encore de la guerre. Donc cette histoire n'a pas été racontée jusqu'au bout, finalement. D'autant plus que cette guerre, un conflit armé, en réalité, n'a jamais cessé. Ce n'est plus un conflit armé, mais ce conflit se poursuit jusqu'à aujourd'hui au niveau politique. Et à l'heure actuelle, il existe le même plan politique que pendant la guerre, d'une certaine manière, donc qui est de séparer une partie de la Bosnie-Herzégovine, la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Ce nationalisme toxique en tant qu'idéologie perdure. Il continue à agir. Et ce qui est bien, c'est que les écrivains ne renoncent pas à en parler, parce que c'est une histoire qui a marqué notre vie. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'avoir aussi le sentiment de ceux qui étaient des enfants pendant la guerre.
Merci beaucoup, Semezine Mehmedinović, de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire Sarajevo Blues, traduit par Chloé Billon, que nous remercions chaleureusement, et paru aux éditions du Bruit du Monde. Cette émission a été réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Marie-Claire Oumabadi à la technique. Merci à Aurélie Marsac qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez réécouter l'entretien littéraire ou le podcaster sur le site de France Culture et même l'application mobile de Radio France.